Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Chers amis curieux et curieuses du monde en devenir, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour notre petit voyage dans le temps. Ce bond vers 2050 est aujourd'hui particulier parce que j'ai envie d'en profiter pour vous faire découvrir un podcast qui s'appelle L'École des Facs. L'École des Facs est un podcast de chronique aux sujets variés qui parle technologie et ou vie numérique en toute illégitimité, disent-ils. J'aime bien ces sujets parce que les techs et le numérique appartiennent à notre présent, oui, mais interrogent forcément notre futur et ce que nous déciderons surtout de faire de ces outils. Et si je vous parle de ce podcast, c'est parce que je participe à une aventure collective, un groupe d'entraide, au doux nom de Podcastéo, qui a l'ambition d'amener à vos oreilles avides de nouveaux univers des pépites auditives qui méritent que vous vous y attardiez. L'École des Facs accepte tout le monde, pas de prérequis, pas de sélection. Et vous la retrouverez sur SoundCloud, sur iTunes, mais aussi sur leur page Facebook, sur Twitter et même leur site web. Oui, Podcastéo, une aventure collective. Et ça tombe bien parce que cette semaine, mon invitée, Soraya Ferratia, est une jeune femme à l'enthousiasme communicatif qui aide au quotidien les entreprises à accoucher de dynamiques collectives épanouissantes pour ses salariés. Et elle a une vision claire de ce que cela pourrait donner en 2050. Je ne vous en dis pas plus. Le futur commence ici et maintenant.
Soraya.
Bonjour.
Merci de m'accueillir. Alors, pas chez toi, on n'est pas dans ton univers. Ici, nous sommes dans une loge au Havre, à l'occasion de la 6e édition du Forum de l'économie positive, à l'occasion duquel tu es intervenu ce matin pour parler d'intrapreneuriat.
Exactement.
Alors, est-ce que Soraya, tu pourrais me définir juste la définition de ce mot ?
Alors, l'intrapreneuriat, c'est le fait de se dire que dans les grandes entreprises aujourd'hui, on a tout le monde a sa fiche de poste, etc. On fait ce pour quoi on est payé. Moi, j'ai une conviction qui est celle que tous les collaborateurs de nos entreprises pourraient donner beaucoup plus. Mmh. Évidemment, s'ils le souhaitent, on n'est pas tous obligés de le faire, mais il y a plein de gens qui se sentent frustrés dans leur travail parce que c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient faire dans la vie, parce qu'ils ont fait un petit peu le tour, etc. Mais pour autant, on leur a demandé de faire ça, donc du coup, ils continuent. Et moi, les intrapreneurs, en fait, sont des personnes qui, à un moment donné de leur carrière, se disent « bah j'ai envie de plus ». Et donc, du coup, ils vont sortir de cette fiche de poste, avoir le courage de le faire, l'audace de le faire, et ils vont aller créer des projets qui sont pas du tout censés mener, et des projets qui sont à la fois hyper innovants, qui font réellement sens pour eux, qui font sens pour le business de l'entreprise, et qui sont souvent moteurs d'impact sociaux ou environnementaux très forts.
D'accord.
C'est entrepreneur. Alors, à l'intérieur de l'entreprise.
Exactement. Donc avant justement de parler de ce qui t'a amené justement à t'intéresser à cela, j'aimerais ensemble qu'on voyage dans le temps. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Nous allons partir en 2050, dans 33 ans. Tu auras une cinquantaine d'années.
Ouais.
Et ouais. Okay. Alors, en 2050, comment tu vois le monde de l'entreprise ?
Le monde de l'entreprise. Alors déjà, c'est difficile. Je vois ça, je vois l'entreprise comme un univers déjà beaucoup moins écrasant que ce qu'on a aujourd'hui. Mmh. Je pense que c'est un univers dans lequel les gens sont heureux d'être. Ils sont hyper épanouis, notamment parce qu'ils peuvent être ce qu'ils sont réellement dans la vie à l'intérieur de l'entreprise. Parce que quand il y a quelque chose qui les préoccupe à l'extérieur, quelque chose parce qu'il y a des news qui arrivent et qui sont pas bonnes, politiquement il y a des choses qui se passent, ça leur plaît pas, etc. Et ben, ils peuvent arriver dans l'entreprise et s'exprimer dessus. Et quand il y a vraiment des choses qui leur tiennent à cœur, et ben, ils ont la possibilité, on les autorise à aller créer dessus et à se dire bah en fait je vais utiliser mon entreprise comme un accélérateur pour aller créer de l'impact en fait sur les choses qui me préoccupent réellement. D'accord. Et pas juste sur le nouveau rouge à lèvres parce que j'ai été embauchée pour travailler sur le nouveau rouge à lèvres.
D'accord, alors peut-être qu'on comprendra tout à l'heure pourquoi tu prends l'exemple de rouge à lèvres. Alors cette entreprise de 2050 finalement elle n'est plus une boîte. J'utilise à dessein ce terme parce que tu l'as utilisé dans ton intervention tout à l'heure. C'est plus une boîte dans l'imaginaire que l'on a autour d'une boîte, c'est qu'elle est fermée. Ouais. Parfois on l'ouvre, mais il faut une clé, etc. Ouais. Donc
c'est exactement ça en fait. C'est plus du tout une boîte, c'est juste un écosystème de personnes qui avancent ensemble vers le même but et qui juste sont passionnés par la culture de leur entreprise, sont hyper heureux d'être là, etc. Sont passionnés potentiellement par les produits que l'entreprise vend, etc. Mais qui par ailleurs peuvent se dire bah, si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Tant qu'évidemment on reste dans le contexte et dans des choses. En fait, c'est juste une espèce de plateforme où des gens se rencontrent. À partir du moment où les intérêts de l'entreprise et celle de l'humain se rencontrent, on peut tout faire, quoi. Mm-hmm. Tout est possible.
Donc on passe de la boîte à un espace finalement, ouvert qui interagit avec l'environnement l'ensemble de ses collaborateurs.
Avec l'extérieur, mais aussi juste à la base avec l'intérieur. En fait, c'est rigolo, mais on parle beaucoup d'open innovation, de machin aujourd'hui, et c'est génial, c'est des sujets qui sont passionnants, mais c'est vrai que déjà, rien que le fait de se dire, l'innovation, la nouveauté peut émerger de l'intérieur de votre entreprise juste parce qu'on laisse s'exprimer les gens. Mais c'est déjà aujourd'hui des sujets qui sont pas du tout évolués, qui sont pas du tout matures dans nos entreprises. Donc déjà, le fait de se dire que c'est un écosystème vraiment vivant où les gens peuvent créer, quoi.
Alors moi, la première fois, je crois, que j'ai dû entendre parler d'intrapreneuriat, c'était avec l'exemple qui a été très médiatisé de Google, notamment, qui permettait à ses salariés d'avoir vraiment un temps dédié au développement d'autres projets. Donc Google, on imagine très bien cette logique de la créativité, d'ouvrir d'épanouissement des équipes pour générer de l'innovation, mais si on est dans n'importe quelle entreprise, une entreprise, je ne sais pas moi, de robinetterie, etc., est-ce qu'en 2050, justement, cet espace de créativité pourra concerner toutes les entreprises, ou ça restera pour les entreprises qui sont déjà dans les secteurs soit de la recherche, de l'innovation, ou de produits à forte valeur ajoutée?
Bah justement, en fait, c'est hyper intéressant, parce que Google, ils ne parlent pas d'entrepreneuriat. En fait, c'est dans leur ADN, ils n'en parlent même pas, ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils le font, juste. Et en fait, moi, je suis persuadée que toutes les entreprises peuvent devenir intrapreneuriales. L'idée, c'est juste de changer les cultures. Et il ne s'agit pas juste de dire, par exemple, très concrètement, tu parles de robinetterie, je suis dans une entreprise de robinetterie, à part dire peut-être qu'on pourrait faire un robinet rose, a priori, j'ai pas trop d'idées. Très bien, c'est pas grave, en fait. L'intrapreneuriat, c'est aussi et avant tout un esprit, une culture, une manière de faire. Il s'agit pas forcément, c'est un état d'esprit, il s'agit pas forcément de créer un nouveau projet extraordinaire qui va être le nouveau Uber de la robinetterie, mais il s'agit de se dire que chaque jour, dans tout ce que je fais, dans les process, dans la manière dont je parle à mes collaborateurs, etc., je laisse plus d'espace aux autres, je laisse plus d'espace à l'humain, je laisse plus d'espace à la créativité. Si mon stagiaire qui arrive et qui n'a jamais utilisé une manière de faire sa to-do list différente de la mienne, je vais pas lui expliquer comment faire une to-do list si son truc fonctionne. S'il a envie de faire des dessins en réunion, qu'il les fasse. C'est juste laisser place à la créativité des gens, pas forcément dans le produit final qu'on va sortir, mais aussi dans la manière dont on fait les choses au quotidien et laisser les gens un peu faire un peu comme ils veulent. Et justement, il y a des trucs, si on tire le fil, ça peut être aussi de dire, en 2050, on ne sera pas tous obligés d'être au bureau à 8h30 ou à 9h et de repartir à 19h parce qu'il faut partir à 19h et qu'en fait, il vaut mieux partir à 19h30 parce que sinon... En fait, moi, je travaille très bien de 1h du matin à 4h du matin. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous m'obligez à dormir à ce moment-là. Et donc, du coup, à 14h, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de dormir, etc. Donc, typiquement, c'est aussi ça, l'esprit d'esprit entrepreneurial, se dire, soyons flexibles, en fait, laissons la place aux vrais gens et ne faisons pas en sorte que tout le monde s'adapte absolument à une norme qui est écrasante, mais faisons en sorte que chacun puisse ouais, puisse exprimer ce qu'il est et ce qui lui convient mieux dans l'entreprise.
Alors, est-ce que cette vision que je trouve appétissante, je vais dire ça comme ça, j'essaye toujours de me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que aussi ça peut renforcer ce côté individualiste où on va dire, bah voilà, il faut que, ok, mon entreprise maintenant me laisse avoir de la créativité, il faut que ça soit moi qui trouve le truc pour pouvoir avancer plus loin. Est-ce que comment cette logique d'entrepreneuriat peut aussi contribuer à la démarche de collectif aujourd'hui? En 2017, on s'intéresse beaucoup au ressort du collaboratif, etc.
Bien sûr. Bah, au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger que l'entrepreneuriat, ce soit le héros. Il y a une vraie héroïsation aujourd'hui des entrepreneurs. Moi, j'utilise ce terme. Il y en a tellement peu que je fais, bah voilà, mes entrepreneurs, ce sont des héros. En fait, justement, ça ne devrait pas être des héros. L'idée, c'est que... Sauf que si on laisse l'entrepreneuriat et l'esprit entrepreneurial, on laisse le monopole de cette idée, de ce concept à certaines personnes, évidemment ça devient des héros. Si c'est quelque chose que tout le monde s'approprie, ça devient quelque chose de collectif. Si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a une nouvelle idée, il se dit pas je vais la garder pour moi parce qu'en fait je sais très bien que tout le reste de mon entreprise va être contre parce que c'est pas dans notre culture, etc., évidemment le jour où il réussira, ce sera un héros. Par contre, si toute l'entreprise se dit bah c'est notre culture, en fait c'est ça, nous voulons des gens créatifs, et bah quand il y a une personne qui a une idée, elle l'exprime et donc d'autres gens peuvent venir se pluguer à cette idée, venir aider, venir contribuer, et ça devient plus le projet de l'entrepreneur mais bien quelque chose de collectif. C'est évidemment ce qu'on veut, c'est évidemment, je suis complètement d'accord, il y a un danger, mais justement si on arrive à rendre ça culturel et à démocratiser cette notion, ce danger, on peut l'effacer.
Alors tu l'as dit, il y a un enjeu de changement culturel. Alors, je ne connais que un bout du monde de l'entreprise en France. En France, il y a quand même une culture, voilà, c'est hérité de notre histoire, un état jacobin, des entreprises très verticales, avec un management très vertical lui aussi. Ça veut dire que pour arriver à ce que tu décris en 2050, on a une culture, faut changer les écoles de commerce, HEC, les programmes, etc., pour que on arrive à une entreprise différente. On parle beaucoup d'entreprises libérées. Enfin, il y a un changement d'éducation, de formation, de culture profond à opérer.
Je suis assez d'accord. Je pense qu'on peut arriver à une culture plus entrepreneuriale juste en travaillant l'entreprise. Si on veut réellement une entreprise créative, réellement entrepreneuriale, il va falloir aller changer beaucoup de choses, et notamment l'école, notamment enfin, rien que l'ouverture aux autres, en fait. Aujourd'hui, effectivement, en fait, ça en dit long. Enfin, rien que le fait qu'on se dise, bah, on n'a pas le droit de faire une sieste en entreprise, qu'on doit arriver à
telle heure. C'est 20 minutes précieuses qui nous redonneraient tellement la pêche.
Exactement. Et on est obligé de repartir à telle heure, etc. Ça prouve bien qu'on n'est pas ouvert à la différence, on n'est pas ouvert à la personne qui dit, bah, non, moi, j'ai pas envie de ça, etc. Donc oui, ça demande un changement culturel.
Et même dans le recrutement, parce que c'est vrai que c'est une spécificité française. Tu es allé voir ce qui se passe ailleurs, donc on va en parler dans quelques instants. Mais en France, on sait qu'il y a une véritable culture du diplôme. Alors que finalement, le plus important en 2050, on regardera peut-être d'abord, ça sera plus les diplômes qui seront en haut du CV, mais plutôt vos centres d'intérêt.
Ouais. Ah, mais c'est affolant, en fait, ça. Moi, ça me rebute complètement, tous ces trucs. Mais c'est vrai, enfin, là, moi, j'ai fait mon pitch et j'ai parlé de créativité, j'ai parlé de faire exploser les codes, etc. J'ai eu plein de retours positifs et j'en suis très heureuse. Et il y a plein de gens qui se sont reconnus dans ce que j'ai dit. Du coup, c'est des retours qui sont hyper précieux pour moi parce que ça me fait juste du bien de me dire que j'ai touché les gens. J'ai aussi des gens qui viennent me voir et qui me disent « Bravo, c'est génial, d'ailleurs, vous venez de quelle école ?» Enfin, j'en ai eu 3 quand même, c'est énorme. C'est énorme. Et bah oui, j'ai fait une école de commerce. Et en plus, c'est rigolo parce que j'ai fait un IUT en pub. Ensuite, je suis allée à Édimbourg pour faire un bachelor en relations publiques et marketing. Et je suis revenue en France en me disant, maintenant, il me faut une grande école. C'est bon, t'es pas allée en prépa déjà, t'as fait ta vie. Ensuite, t'es pas allée direct en école, t'as fait ta vie, t'as fait ce qui te plaisait. Bon, maintenant, il faut que les choses sérieuses commencent. Ouais. Alors que réellement, j'ai jamais plus appris de ma vie qu'en IUT. Le reste qui était des trucs très prestigieux, enfin très prestigieux, tout est relatif, mais j'ai fait une grande école, voilà. Et ben ça m'a, en réalité, ça m'a apporté plein de trucs. J'ai rencontré des gens géniaux, trop, voilà, et j'adore mon école. Mais pour autant, la formation qui m'a le plus appris, qui m'a le plus structuré, qui m'a le plus, voilà, apporté, bah c'est l'IUT. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, les gens, ils l'entendent pas, en fait. Mmh. Et ouais, c'est ce... Je sais plus quelle était la question à la base, mais c'est vrai que c'est...
Ouais, donc c'est en 2050, on aura changé à la fois de regard sur le diplôme, aussi, j'imagine, sur le contenu des formations pour déclencher, cultiver cette sensibilité à la créativité.
Complètement. Et aussi, en 2050, je pense qu'on aura arrêté de dire... Il vous faut un parcours cohérent. Je trouve ça abominable comme truc. Cohérent, je sais même pas ce que ça veut dire cohérent, parce que c'est cohérent pour vous, c'est peut-être pas cohérent pour moi. Et je trouve ça assez compliqué aussi, cette espèce de toujours volonté de dire, bah en fait, il faut que tu fasses ça, et puis après il faut que tu fasses ça. Il y a un chemin, il y a une destinée pour chacun d'entre nous. Bah non, en fait, si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, si dans 6 mois je veux faire autre chose, je ferai autre chose, en fait. Mm-hmm. C'est juste parce que j'ai envie de faire autre chose, si dans 5 ans j'ai envie de faire autre chose, je ferai autre chose. Mais aujourd'hui, typiquement, ce genre de profil de gens qui juste font autre chose, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué et c'est n'importe quoi. Ça devrait pas être compliqué parce que justement, on essaie d'être entrepreneur de nos vies, on essaie de créer sur nos vies, de faire des choses différentes, de faire des choses qui apportent vraiment de la valeur. Je veux dire, parfois, quand je fais mes missions, etc., aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai vraiment le sentiment d'apporter de la valeur.
Ouais.
Et pour autant, peut-être que si on met une personne qui a mon âge et qui est en grande entreprise, elle gagne peut-être plus d'argent que moi, elle a peut-être déjà son CDI, et donc du coup son appart déjà commencé à payer, qu'elle va acheter, etc. Pour autant, moi j'ai l'impression d'apporter vraiment de la valeur, quoi. Mmh. Et j'ai l'impression que ma place, elle est là, et à partir du moment où j'ai l'impression que je crée quelque chose de bien, j'ai pas envie qu'on me dise quoi que ce soit, en fait.
D'accord, ouais.
Alors
tout à l'heure, il y a un autre élément aussi qui m'a interpellée dans ce que tu as dit, c'est que l'intrapreneuriat peut avoir un impact social et environnemental. Justement, l'intrapreneuriat, faut qu'il soit mis, selon toi, au service d'un meilleur vivre ensemble.
C'est sûr. Déjà, pour moi, la notion d'intrapreneuriat, à la base, elle est sociale.
D'accord.
Parce que c'est dire à des gens... Soyez ce que vous avez envie, faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés et tous les gens que j'accompagne aujourd'hui, tous les intrapreneurs que j'ai dans des grosses boîtes et que j'accompagne, ce sont tous des gens qui, à la fin, me disent « Mais Soraya, mais merci, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé être capable de faire. » Et ça, déjà, c'est incroyable, en fait. C'est un impact qui est génial. Mmh. On élève des gens, ils arrivent à se dépasser, et ça, c'est incroyable, déjà. Donc, pour moi, cette notion, elle est sociale à la base. Après, et c'est une observation qui est très personnelle, mais j'ai quand même vu beaucoup d'intrapreneurs, donc je pense que je peux la faire assez sereinement. Quand on demande à des gens de s'exprimer, de dire, en fait, qu'est-ce que vous auriez envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de créer comme projet qui vous toucherait, etc., eh bien, globalement, il y en a une grande partie, pas chez tout le monde, mais il y en a une grande partie qui sont des projets qui ont des impacts sociaux, environnementaux, et notamment environnementaux.
D'accord. L'homme, finalement, est naturellement bon, Soraya.
Complètement, j'y crois. Non, mais parce que juste, en fait, on a tous des vies. Et c'est là où, quand je dis amener l'extérieur à l'intérieur et être la même personne à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est exactement ça. C'est se dire, en fait, moi, j'en sais rien, j'ai une petite fille handicapée à l'extérieur, sauf que quand je suis à l'intérieur, j'ai pas le droit d'en parler, je n'en parle pas juste parce que je fais des rouges à lèvres et je m'occupe pas des handicapés. Pourquoi pas, en fait? Est-ce que le maquillage pourrait pas aider certaines personnes? J'en sais rien, je sais pas. Mais est-ce que je pourrais pas avoir des idées que je tire de mon quotidien parce que j'ai ma fille avec moi qui a un handicap? Est-ce que je pourrais pas amener cette problématique qui me touche au cœur au travail pour essayer de faire quelque chose de ça, en fait? Et c'est exactement ça. Et on est tous touchés par des choses, que ce soit, j'en sais rien, la maison de ma grand-mère vient d'être inondée parce que, voilà, ou bien... Enfin, il y a plein de trucs qui nous touchent, et je pense que voilà. Et après, Oui, il y a des gens qui sont passionnés par des choses qui sont absolument pas ni environnementales, ni sociales, etc. Bon, bah, c'est pas grave, faut aussi les laisser s'exprimer.
Mmh. Non, voilà. Mais c'est intéressant que justement tu aies rencontré une grande. Et que pour toi, dans une grande partie de tes retours sont de cet ordre-là.
Ah, alors,
ça, ouais. C'est l'occasion de le dire, parce que tu as réalisé un tour du monde de l'intrapreneuriat. Tu es allé sur quasiment tous les continents pour aller rencontrer justement ces intrapreneurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Peut-être d'initiatives, justement.
Mais du coup, oui. Du coup, cette initiative, elle s'appelle l'Entrepreneurship Tour. Oui. Et j'ai rencontré, bah, par exemple, une dame, typiquement, c'est amener l'extérieur à l'intérieur, une dame qui s'appelle Barbara, qui travaille à Londres chez Unilever. Mm-hmm. Et un jour, elle va au Nigeria en vacances. Et elle revient bouleversée parce qu'elle se rend compte qu'il y a des villages dans lesquels qu'elle a visité, dans lesquels les femmes font tous les jours des allers-retours de quelques heures, de 3-4 heures pour aller chercher de l'eau pour le village. Donc finalement, elles passent leur journée à faire ça parce que voilà, donc elles n'ont pas de temps pour avoir un travail, pour s'occuper peut-être un peu plus de leurs enfants, etc. parce qu'elles doivent faire ça. C'est très laborieux, d'un point de vue de la santé, c'est quand même pas, c'est pas la folie, etc. Puis bon, voilà. Donc voilà, c'est leur rôle dans le village. Et elle se dit, mais mince, en fait, enfin voilà, elle est bouleversée. Elle revient à Londres, et elle se dit, moi je travaille pour Unilever. Je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose, et si je le fais pas là, si je le fais pas dans Unilever, je le ferai en partant, mais je vais faire quelque chose à ce propos. Et en fait, elle a réussi à convaincre son management d'aller créer un projet autour de ça, mmh. autour de l'eau dans ces villages au Nigeria. Et donc du coup, elle a créé une épicerie, en gros, elle va amener, elle crée des puits dans certains villages au Nigeria, ce qui permet d'apporter l'eau dans les villages, jusque-là, philanthropie très classique. Mm-hmm. Sauf que vu que c'est un intrapreneur et que quand même, c'est une chef de produit à la base marketing, elle a ce côté business oui. qu'elle amène, et c'est là où tout le côté vertueux pour moi est présent. Certes, elle crée un puits, mais à côté de chaque puits, elle crée une petite épicerie Unilever qui ne vend que des produits comme du liquide vaisselle, du shampoing, etc. Elle crée un usage mm-hmm. qui sont vendus évidemment à des prix beaucoup plus bas. Mais finalement, aujourd'hui, ces femmes-là qui, avant, allaient chercher l'eau, elles sont les micro-entrepreneurs qui gèrent cette épicerie-là. Donc du coup, il y a des revenus qui sont générés. Et en plus, vu qu'il y a plus d'eau que ce qu'elles ne pouvaient emmener avant, mm-hmm. eh ben, il y a un usage qui est créé sur justement se shampooiner plus qu'avant, etc. Parce qu'on a plus d'eau, donc on peut faire des choses. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc du coup, voilà. Donc ça, typiquement, c'est un projet entrepreneurial qui est extraordinaire. Parce que ça prouve, encore une fois, que le social, l'impact social et le business sont des choses qu'il ne faut pas penser forcément de manière opposée ou différente, mais qui peuvent réellement être se nourrir, quoi. Mm-hmm. Voilà, et de penser ensemble.
D'accord. Alors, j'essaie toujours de chercher la petite bête. Est-ce que parce qu'on a beaucoup parlé de grands groupes, mm-hmm. Est-ce que justement l'intrapreneuriat a un impact social ou environnemental positif ? Ça peut pas être pour ces entreprises aussi une façon un peu de faire du greenwashing ou de se dire, bah voilà, nous, en tant que grands groupes, on a un impact sur l'environnement, on a peut-être des salariés. Je vais prendre par exemple. Un H&M par exemple. Mmh. On sait comment les femmes et les hommes peuvent travailler à l'autre bout du monde. Ben voilà, ils ont un impact négatif. Est-ce que le fait de permettre l'intrapreneuriat et d'avoir des initiatives certes pertinentes à un impact positif, c'est pas un peu un moyen de se redorer une image qui finalement, à l'échelle d'un groupe international, reste une goutte d'eau.
Quand on le fait et qu'on a un entrepreneur, mmh. et que derrière on fait que communiquer sur lui, mmh. et que évidemment pendant des années on a de l'entrepreneuriat chez telle ou telle marque parce qu'il y a un mec qui a fait un truc, c'est du greenwashing, mmh. clairement. Mmh. Quand il est tweeté 50 fois et que machin, et qu'il se passe rien derrière, évidemment.
D'accord.
Après, quand les choses sont diffusées et que réellement ça devient. Il y a une véritable envie
un changement culturel,
voilà, de diffuser pour changer la culture. Bah non, évidemment, elles vont pas se transformer du jour au lendemain, les grandes entreprises, faut être aussi réaliste, mais il faut commencer quelque part, en fait, et du coup voilà. Et justement, en fait, c'est Vous voyez ces usines typiquement où on se dit bah mince, etc. Et ben chez H&M, bah moi je suis persuadée que chez H&M, si on disait bah en fait qui a des idées, qui veut machin, bah la personne aux achats qui tous les jours se dit merde, enfin mince, en fait moi j'achète à des usines qui font n'importe quoi et je le sais, j'en suis complètement consciente. Non, ce font peut-être pas n'importe quoi, mais en tout cas, j'ai un doute, etc. Et ben, elle pourra mettre en place des projets, justement, proposer des projets qui ont pour but d'améliorer ça. Mm-hmm. Donc voilà, c'est justement aussi une manière d'ouvrir la parole sur ce type de sujet où les gens, parfois, voient des choses et ça les choque et ils le disent pas parce qu'ils ont pas envie de se faire taper sur les doigts. Donc mm-hmm. du coup, c'est une manière aussi de
Voilà. Je pense à moi aussi. Ta parole me fait aussi imaginer des choses pour 2050 parce que je me disais il y a les grands groupes, mais il y a aussi toutes les petites entreprises. Et puis dans les grands groupes, il y a aussi les personnes. Je pense aux usines qui ont plutôt des métiers très répétitifs où là pour le coup ils sont très loin des notions de créativité. On pourrait en 2050 imaginer peut-être ça pourrait être des tiers lieux où on pourrait avoir quelqu'un qui d'habitude travaille à la chaîne ou je ne sais quoi, où il puisse rencontrer une fois de temps en temps d'autres personnes et là aussi être impliqué sur ces projets de créativité parce que pour pas que ces espaces de liberté et d'épanouissement soient réservés aux cadres intermédiaires, etc. Donc pour vraiment démocratiser quoi.
Ah, bien sûr, mais ça c'est l'idée. Hein. Quand je dis en 2050, on aura assez. Tout le monde.
D'accord.
C'est vraiment tout le monde. Il ne s'agit pas de se dire, en fait, l'entrepreneuriat, c'est réservé au top talent. Hein. Mmh. Parce que sinon, évidemment, il faut peut-être commencer quelque part. Moi, j'ai rien contre. Au contraire, il faut commencer quelque part. Donc, si on commence par les top talents, pourquoi pas, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut démocratiser, en fait, parce que sinon, ça n'a pas de sens, c'est pas culturel. Je veux dire, on n'a jamais fait une culture avec juste le top management et pas les autres personnes derrière, en fait. C'est ou tout le monde ou personne. Enfin, il n'y a pas de. Je suis d'accord. Par contre, il faut du temps pour y arriver. Donc, en 2050, c'est un bel objectif.
Très bien. C'est dans 33 ans. Alors, pour finir cette conversation, Soraya, j'aimerais que tu formules un vœu pour 2050.
Un vœu pour 2050.
Alors, je te rassure, même si tu vas le dire et qu'il sera entendu et écouté, il se réalisera quand même.
D'accord.
Il est protégé par l'espace de ce podcast.
Un vœu pour 2050. Que tout le monde puisse montrer ce dont il est réellement capable dans l'entreprise, dans la vie en général et se rendre compte aussi qu'on puisse tous se rendre compte qu'on est 10 fois plus que ce qu'on pense qu'on est.
Ah, très bien. Ben, merci beaucoup Soraya.
Merci.
Soraya a vraiment raison. Nous sommes plus que ce que nous semblons être au premier abord, j'en suis convaincue. C'est pour cela qu'à chaque instant, il nous faut être curieux de l'autre et curieux du monde. Oui, soyons toujours curieux.